Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Je sais plus ce que j'allais dire, j'ai dit un truc très très intéressant, mais je pense que la seule chose que je voulais dire c'était attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite ch'touche.
Batman. Trop vite. Il n'est pas fait pour ici.
Justement, les touristes là-bas.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, je suis avec vous pendant une heure. Je suis tout seul ce soir. Je fais des gros bisous magiques qui soignent à mon acolyte Fabien, qui ne peut pas être avec moi ce soir. Voilà, tu as usé ton joker, maintenant tu n'en as plus. Non, remets-toi bien. J'espère que tu m'écoutes quand même. Si vous souhaitez aussi discuter avec moi pendant cette émission, n'hésitez pas à aller sur le www.radio-g.fr, onglet le chat. J'essaierai de vous répondre pendant l'émission. Donc je vais devoir pas mal meubler hein, ce soir, vu que je suis tout seul et que m'entendre complètement parler tout le temps, c'est un peu relou. C'est un peu fatigant certainement pour beaucoup d'entre vous. Alors on va commencer par parler d'abord d'un petit événement qui va arriver du 30 janvier au 2 février, à savoir dans pas très très longtemps. Et je parle bien entendu de la 52e édition du Festival Angoulême. Angoulême, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grande messe de la bande dessinée en France. On parle un petit peu de tout. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, à la fois des auteurs et des éditeurs pros, mais aussi des auteurs et des éditeurs indépendants que vous pouvez rencontrer et découvrir. C'est aussi l'occasion de découvrir des expositions. Je vous en ai sélectionné 3 ou 4, là, dont je vais vous parler très brièvement. Déjà, une qui va plutôt ravir les petits. Puisqu'il y a une exposition qui s'appelle « La BD règle ses contes ». De quoi ça va parler? Eh bien, ça va parler des adaptations de contes en bande dessinée. Ça va pas être forcément exhaustif parce qu'ils n'auront pas le temps, mais il y a plein de choses qui vont être mises en place et le jeune visiteur va avoir une carte qui va lui permettre de se repérer dans cette forêt de contes qui vont aller des jardins d'un château, jusqu'à une grotte, un manoir, une forêt, enfin tous les éléments qu'on peut retrouver dans un conte fantastique et qui vont être illustrés par des morceaux de bande dessinée. Donc ça, c'est une exposition qui sera plutôt pour jeune public et on y parlera de l'Encyclopédie du Merveilleux, Émile et Margot, les Contes fabuleux de la nuit, les 7 ours nains et la quête. Il y a plusieurs autres expos qui, moi, m'ont tenté. Déjà, une exposition consacrée à l'Atelier des sorciers. Alors, on en a déjà plein de fois parlé. L'Atelier des sorciers, c'est un manga que je trouve absolument fabuleux, que ce soit par son histoire ou son dessin. Son dessin est juste sublime. C'est une œuvre d'art pour moi. C'est tellement beau. Et du coup, vous aurez l'occasion de découvrir une exposition qui sera consacrée à l'Atelier des sorciers lors du festival qui arrive très prochainement. Allez-y, vraiment, je pense que ça va valoir le coup. Autre exposition qui risque de valoir vraiment, vraiment le coup, c'est une exposition qui est consacrée au travail de Gutanabe sur H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, si vous ne connaissez pas, c'est un auteur américain du 19e qui a créé le mythe de Cthulhu et une façon d'écrire l'horreur de manière très très particulière. C'est beaucoup de vécu, beaucoup de choses, de créatures qui sont très peu identifiables, dans des dimensions à la fois cosmiques et dont l'œil humain a beaucoup de mal à percevoir à la fois les angles et la façon dont elles sont conçues. Gutanabe, c'est un auteur japonais qui a commencé à travailler, enfin depuis un petit moment déjà, à l'adaptation des ouvrages de Lovecraft en manga. C'est une tuerie, à la fois graphiquement parce que ça marche trop bien, le trait de Gutanabe est fabuleux là-dessus. Il n'y a rien à redire. Si vous avez envie de flipper sur des créatures que vous arriverez à peine à distinguer, c'est fait pour vous. Et puis, ce que fait l'éditeur Kiun, c'est qu'ils ont aussi fait une édition qui présente les ouvrages dans une reliure qui ressemble à du cuir. Donc, c'est vraiment super beau. C'est vraiment génial. Allez voir, vous allez avoir plus d'une centaine de dessins originaux qui seront présentés dans cette exposition. Donc c'est le moment d'en prendre plein les mirettes, je pense que ça va valoir le coup. Et puis on peut conjuguer ça avec la sortie là très récente des Chats d'Ultar, direction chez Kiun, pour pouvoir lire cette grosse nouvelle de Lovecraft en manga. On quitte un petit peu le domaine du manga pour une expo qui sera consacrée à Superman, le héros aux mille et une vies. Un héros qui, depuis 1938, ne semble pas vieillir, même si on va dire que c'est un personnage qui est plutôt archétypal, qui aura posé beaucoup de bases, qui aura été pas mal malmené justement pour tenter de le renouveler. Et ben là, vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations sur ce personnage que j'imagine vous connaissez déjà, mais c'est aussi l'occasion de découvrir ses origines et pas mal des itérations qui ont pu avoir été mises en place. C'est d'autant plus l'occasion, puisqu'on aura une nouvelle itération par James Gunn très prochainement dans le DC Universe. Quoi dire de plus sur le Festival d'Angoulême? Bon, le Festival d'Angoulême, il y a pas mal de sélections. Il y a des sélections jeunesse, officielles, patrimoine, polar. Moi, j'ai repéré pas mal de petites choses qu'on a pu aborder déjà dans cette case de Seb. Déjà dans la sélection officielle, on peut parler de Berserk, Kentaro Miura. Voilà, un manga magnifique, un manga culte pour de nombreuses personnes. Bien sûr, un manga pour lecteurs avertis. Voilà, mettez ça dans les mains de vos enfants si vous souhaitez investir dans de nombreuses séances de psychiatres et de psychologues, voire de calmants. On avait également parlé de Rebis de Irene Mancini et Carlotta Di Cataldo, une BD qui m'avait vraiment plu, qui est dans la sélection jeunesse, ce qui était vraiment un truc hyper cool, une BD qui parle de sorcières et qui était vraiment très très bien. On avait aussi parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, d'Amourir entre les bras de Manouris, qui est dans la sélection Fauve Polar SNCF Voyageurs. C'est un polar qui parle des nourrices, donc c'est les personnes qui acceptent d'héberger des trucs de dealers en échange d'avantages ou simplement qu'on leur fiche la paix. C'est une BD que j'avais vraiment trouvé très très intéressante, très dark, mais vraiment cool, de Raphaël Pavard et Marc Essersal. N'hésitez pas, ça c'était vraiment très très cool. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Parce que j'ai vu plein de trucs, mais je pouvais pas tout sortir non plus. Parce que sinon, autant vous lire toutes les sélections officielles, mais il y a quand même pas mal de choses. Les Contes de la Pieuvre, avec Fanny la Renoueuse, le tome 4, qui est dans la sélection officielle. Les Contes de la Pieuvre, lisez ça. C'est vraiment à la fois sublime et très, très intelligent à lire. C'est des gros pavés, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal hein, de vous ressortir tout ça plutôt que de tout vous lire. Mais voilà. Si vous cherchez des bonnes BD, lisez en fait, regardez ce qu'il y a dans la sélection officielle et il y a de fortes chances que vous puissiez y trouver quelque chose qui vous plaît. Voilà, voilà. Donc j'ai pas mal parlé, c'est cool, hein, mais il faut vraiment que je vous parle moi de mes BD à moi qui vous plaisent. Donc je vais vous conseiller. Hop. D'ailleurs, je sais pas si vous, il y a des BD qui vous sont chers au cœur. Des BD doudou, des BD avec des séries où vous avez un affect particulier. Bah pour moi, il y a une série de BD que j'aime particulièrement et il y a une petite histoire derrière ça. Cette série de BD, c'est Les Carnets de Cerises. Alors, pourquoi j'aime Les Carnets de Cerises? Déjà, parce que j'ai un attachement personnel à cette série. Les Carnets de Cerises, c'est la première bande dessinée qui a remporté le prix Première Bulle du festival Angers BD à l'époque où j'en étais encore président. Ça vous pose un petit peu l'émotion que je peux avoir en lisant Les Carnets de Cerises. Alors, vous avouez que des années plus tard, apprendre qu'un tome 6 est en train de paraître, c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu chaud au cœur. On se dit qu'à l'époque, mettre en avant deux jeunes auteurs de BD, bah, c'était pas si anodin que ça, et qu'on a quand même eu pas mal le nez creux. Et puis Les Carnets de Cerises, c'est non seulement une bande dessinée pour laquelle j'ai un affect à cause de ce prix Première Bulle, mais c'est aussi tout simplement une excellente série de bandes dessinées. Une série de bandes dessinées où on a vu l'héroïne grandir, une série de bandes dessinées qui ne nous a pas été matraquée. La preuve, on est seulement au tome 6, alors que le premier tome est sorti en 2012, soit 13 ans plus tôt. Ce qui nous fait deux albums par an, ce qui est plutôt pas mal. Mais pas trop. Enfin, je pense pas. Mais de quoi ça parle Les Carnets de Cerises? Eh bien, pour vous surprendre, ça parle de Cerise. Cerise, qui est une jeune fille qui rêve de devenir romancière. Et pour ça, elle sait qu'il faut qu'elle se documente sur les gens. Alors elle les regarde, elle les écoute, elle leur pose des questions, parfois indiscrètes, et ça, ça lui permet de se construire, de préparer sa future carrière de romancière, en complétant les carnets du titre pour de futures références. Cerise, c'est une petite fille qui est non seulement curieuse, mais qui est aussi très intelligente. Sur les 5 premiers albums, on la voit se construire, on voit tout un tas de petites choses et de rencontres qui vont lui permettre de comprendre qui elle est, comment elle peut le devenir, et puis on découvre aussi comment sa famille existe. Et puis petit à petit, elle va voir sa famille, ses amis, se métamorphoser. Ses amis vont s'éloigner un petit peu, sa maman va trouver un nouveau compagnon, ce qui donnera à Cerise un petit frère. Ça, c'est là où on s'arrête au tome 5. Et ce tome 6, c'est l'occasion d'un nouveau voyage. Déjà, je vais vous présenter un petit peu la couverture. Déjà, je vais aussi vous présenter ce que c'est, Les Carnets de Cerise. Les Carnets de Cerise, c'est un ouvrage que vous pouvez trouver dans la collection Métamorphose. C'est scénarisé par Joris Chamblin et Aurélie Néret. Qu'est-ce que ça représente, la couverture de Cerise? C'est un petit peu à l'ancienne, je voudrais pas dire les camés, mais on a un rond au centre de l'album avec une jeune fille, un petit chapeau, une sorte de petit chapeau en cuir façon Fedora. Elle a une queue de cheval, elle est rousse, elle a un petit t-shirt, elle est assise. Et elle est en train d'écrire dans un carnet avec un crayon. Autour d'elle, nous avons des racines qui commencent à monter avec des animaux exotiques. Nous avons un singe dans un coin, un toucan dans l'autre. Et au sol, une montre et une carte. Dans ce tome 6, c'est l'occasion surtout d'un voyage. Un voyage à la fois physique, puisque la famille de Cerise va décider de faire un tour du monde, en passant par l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud, ou encore le Sahara. Et à chaque fois, ce sont de nouvelles étapes pour cette famille, et de nouvelles occasions pour Cerise de faire des rencontres. Nouvelles ou anciennes. Attention, c'est du teasing. Mais c'est aussi de nouvelles occasions pour cette famille de resserrer des liens, de partir vers un nouveau voyage, un voyage émotionnel ce coup-ci. Mais ça, Je vais pas vous le raconter. Je vais vous laisser le découvrir dans l'album. Il faut s'en rendre compte. Il faut voir venir les choses et le petit twist qui peut arriver un peu plus loin. Les carnets de cerises, vous l'avez bien compris, c'est une histoire écrite avec brio par Joris Chamblin, où l'héroïne est profondément humaine et bien construite. Mais c'est aussi une histoire qui est incroyablement belle, visuellement je parle. Le trait d'Aurélie Néret est fabuleux. On nous emporte avec beaucoup d'émotions, beaucoup de couleurs, beaucoup de douceur. Les marges de l'album sont souvent assez larges, ça donne une sensation très aérée. Je vois pas comment l'expliquer. Puis les personnages sont tout de suite très attachants dès qu'on les voit. Puis il faut dire que les carnets de cerises, c'est pas forcément construit comme une BD classique. C'est plutôt construit comme un carnet entrecoupé de pages de BD. Et c'est surtout ça qui est important. C'est ce carnet qui appartient à Cerise et c'est ce que raconte Cerise. Alors vous l'aurez sans doute compris, hein, je pense que j'ai pas besoin de l'appuyer encore plus. Les carnets de Cerise, c'est une série que j'aime énormément et que je conseille très fortement. Déjà parce que je le redis, hein, c'est une série que j'aime énormément. Mais aussi parce que je suis convaincu que toutes les valeurs, toute la douceur qu'elle propose sont des valeurs et des douceurs qu'on devrait mettre entre les mains de tout le monde. C'est une BD qui est à la fois tendre, attachante, belle et surtout très intelligente. C'est une BD comme on aimerait en lire beaucoup plus. Je vous redonne les références. Les carnets de cerises, c'est de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et c'est dans la collection Métamorphose aux éditions Oxymore. Je vais vous proposer de faire une petite pause musicale avec un morceau qui s'appelle Piggy du groupe Nine Inch Nails. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Hey baby. Big, big, big. All of my fears came true. Black and blue and broken bones, you left me here. My little piggy needed something new. Nothing can stop me now, 'cause
Diogée. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur la case de Seb sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. Je viens déjà de le dire, mais je me répète. Voilà, c'est pas grave. C'est moi qui dis. C'est moi qui fais. C'est moi le chef ici, de toute façon. Et il y a personne d'autre. Ça se trouve, vous m'écoutez même pas. Il y a personne sur le chat. C'est, voilà. Mais c'est pas grave. Je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous êtes là. Bref, j'arrête de raconter des âneries. Je vous ai parlé des carnets de cerises il y a quelques instants. On va rester dans le domaine de la jeunesse avec Balle au pied de Lilian, et Les Deux Pareils aux éditions Glénat. Bon, vous voulez une histoire drôle? Eh ben, raté. C'est pas du tout ça que j'ai en stock là tout de suite. Je vais vous raconter cette histoire de Balle au pied. Balle au pied, c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Alexandra qui n'a qu'une envie, être championne de foot. Bah, elle est douée hein, en plus. Elle est même très forte, on l'envisage comme capitaine et avec ses camarades, elle prépare un match dans sa petite équipe, dans son petit club. Un match contre une autre équipe, un peu plus grosse, avec une bonne rivalité, sur lequel il va y avoir beaucoup de bagarres. Et Alex, elle est l'élément qui pourrait changer la donne. Mais après un entraînement, alors qu'elle devait rentrer avec son père, bah son père avait oublié qu'elle devait rester entraîner les plus petites, les juniors. Et là, une jeune fille vient la voir, lui dit « Écoute, je crois que t'es super forte, à ce qu'on m'a dit, j'aimerais bien qu'on se challenge. On va se faire un battle. » Elle vient la tester, de manière non officielle, hein, en dribble, jongle, pour voir ce qu'elle vaut. Et puis alors qu'elles sont à fond dedans, le ballon prend la direction de la route. La jeune fille va chercher le ballon et Alexandra va se jeter sur la jeune fille pour l'empêcher de se faire renverser par un camion. Ouais, vous voyez venir la douille? La jeune Alexandra s'est fait renverser à la place de cette jeune femme, l'envoyant directement à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger. Mais hélas, l'opération n'aura pas permis de sauver sa jambe droite. Elle est amputée. Adieu les rêves de foot, adieu la compétition. Alexandra devient alors handicapée, en fauteuil. Alexandra va avoir besoin d'une prothèse pour se tenir debout. Forcément, cette situation va impacter le moral de la jeune fille. Mais la colère va faire place au doute, place au découragement. Mais Alexandra est une battante et elle décide de tout faire pour pouvoir rejouer au foot. Et elle veut montrer au monde entier de quoi elle est capable. Alors je vais pas tout vous raconter, hein, c'est le tome 1, c'est un tome d'installation, un tome d'une série dont je connais pas encore la tomaison. Peut-être qu'il y a déjà d'autres tomes qui sont sortis. Mais vous vous doutez bien que tout ne va pas être aussi simple qu'Alexandra le souhaiterait. Parce que c'est une battante. Elle va arriver à se donner les moyens de faire ce qu'elle souhaite. Et, spoiler, à la fin du tome, elle commence à y arriver. Ce que je trouve qui est cool, c'est que c'est une BD qui parle de handicap. Mais il n'y a pas de pathos. C'est surtout une BD qui parle de foot. D'une petite fille qui a envie de faire du foot et d'être une championne. Puis il arrive un truc bien méchant, hein, soyons honnêtes. Mais c'est pas ça qui va l'empêcher d'aller jusqu'au bout de son rêve, hein. Elle va juste la freiner, car elle va se battre et elle va tout défoncer pour pouvoir devenir la meilleure joueuse de foot du monde. Rien de plus, rien de moins. Au moins la meilleure joueuse du foot des clubs de son équipe. Du monde, on verra plus tard. Mais l'essentiel, c'est qu'elle se donne les moyens. Et c'est une BD plutôt cool parce qu'elle est moderne. Ok, il y a des moments tristes, ok, il y a des moments joyeux. Mais c'est une BD qui est selon moi authentique. On nous fait pas larmoyer juste parce qu'on nous fait larmoyer. Il y a des moments qui sont durs et ça nous fait verser une larme parce que c'est des moments qui sont tristes. Mais on force pas le trait. C'est hyper agréable à lire. Les enfants, ils parlent un langage d'enfant. C'est comme ça qu'on a l'impression que les enfants parlent. Enfin, moi, c'est l'impression, en tant que vieux, que j'ai l'impression que les enfants parlent. Graphiquement aussi, c'est moderne. C'est cool. Parce que même si je pense que c'est du travail numérique, je suis même quasi sûr, Il y a un côté rond, très efficace, il y a une espèce de grain, une espèce d'authenticité qui rend la patte numérique pas trop lisse. Puis c'est une BD de sport, c'est dynamique, il y a du mouvement. Alors moi qui connais rien en foot, puis qui aime pas trop ça, hein, je vous le cache pas, j'ai l'impression qu'en plus, les mouvements qu'on nous montre sont des mouvements qui sont crédibles, c'est lisible. Ça renforce encore l'authenticité du bouquin et donne plus envie encore de le lire. Puis les personnages, bah ils sont cool, ils sont attachants dès qu'on les voit. On sent tout de suite qu'Alexandra, elle a la hargne, elle est bien personnalisée, elle est bien caractérisée. Ça marche bien. Puis je trouve ça cool d'avoir une BD, hein, je le répète, je me trompe peut-être, mais une BD qui est à la base surtout une BD de sport avant de parler de handicap. Et c'est ça qui est cool, c'est que les deux vont très bien ensemble. Puis si on va avoir une BD sur le football, mais avec une jeune fille qui a un handicap, bah voilà, hein, on a ce qu'il faut. Donc allez-y à fond. Moi, je saurais que trop vous conseiller la lecture de Balle aux pieds, parce que c'est une BD qui est pleine de bonnes choses, avec des moments durs, mais qui est vraiment très cool. Donc allez-y, lisez Balle aux pieds, de Lilian et les deux pareils. C'est publié aux éditions Glénat, et c'est une série qui, à mon avis, vaudra largement le coup d'être suivie autant que vous pouvez. Voilà, voilà. Je vais rester un petit peu sur les trucs. C'est une chronique qui est un petit peu moins construite, je pense. Je vais vous parler de Congé Pat, de Tristan Champion, Stéphane Tamayon, Jacques Chadwick. Congé Pat, c'est l'adaptation en BD d'un livre et d'un blog. Je ne sais plus lequel est le premier, c'est l'adaptation de La Barbe et le Biberon. Mais de quoi ça parle? Ça parle de la vie de Tristan, Tristan Champion, qui est un trentenaire français, qui est marié à une Norvégienne, et après avoir vécu un certain temps en France, il décide de partir en Norvège avec sa compagne. Et il va découvrir qu'en Norvège, les règles sur les congés parentaux, je ne dis bien pas congés paternels, les congés parentaux sont un peu différents de ce qu'on peut concevoir en France. Là où en France, on a un congé maternel un peu long et un congé paternel un petit peu plus long depuis quelques années, là en Norvège, il y a 10 mois de congés parentaux. 3 mois pour la mère, 3 mois pour le père, et les mois qui restent, bah c'est un petit peu à la sauce du couple. Et ça, ça lui fait un petit peu bizarre à Tristan, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude, et puis il n'avait pas franchement prévu de prendre 3 mois de congé parental, voire même un peu plus. Ça, je vous laisserai découvrir ses décisions. Mais c'est aussi la possibilité, avec cet ouvrage et le parcours de Tristan, de découvrir comment la parentalité et les droits parentaux sont mis en avant en Norvège. Et je me permets de casser rapidement le mythe, bah, y a beaucoup de choses qui sont mis en avant. Déjà, un couple homoparental, ça pose pas de problème. Le congé parental sera le même. Même s'il y a peut-être quelques petites subtilités. Et puis, il y a plein de choses qui sont mises en place pour que les papas puissent s'occuper pendant ces congés. Il y a des chorales, il y a des sorties en chien de traîneau. Oui, bah oui, ça c'est plus facile à faire qu'en région parisienne, je vous l'accorde. Il y a plein de trucs en fait qui vont permettre à Tristan de passer du temps de construction avec sa fille qui vient de naître. Du temps qui vont aussi permettre à la maman de reprendre un rythme de travail. Un travail qui n'a pas été ralenti par le congé parental. Puisque oui, on peut avoir des avancements de carrière et prendre 5 mois de congé parental. Ça ne pose visiblement pas de problème en Norvège. Et ce qui est cool, en fait, c'est que Tristan, avec cette expérience-là, il va commencer à se documenter, à comprendre tout ce qui a été mis en jeu dans cette Norvège. Et il va le documenter sur un blog qui s'appelle barbapapa.blog. Et ce blog, il va se rendre compte que ça va attirer aussi des gens qui vont lui partager eux aussi leurs expériences. Et Tristan, comme il est un petit peu français à la base, il se dit bah c'est quand même dommage que ce soit pas quelque chose qui soit appliqué en France, voire ailleurs. Et il va commencer à militer. Il va commencer à faire, à son niveau, du lobbying pour qu'on puisse avoir des congés parentaux plus équitaux, équilibrés, équivalents. Voilà. Bref, pour que ce soit plus agréable, la gestion des congés parentaux en France. Et du coup, ça permet d'avoir cet album qui va vraiment documenter le congé pater et le congé parental à travers le monde. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que ceux qui ont vécu un congé parental savez comment ça se passe. Hein. Mais là, on découvre qu'il y a d'autres possibilités et que être papa à la maison, c'est pas aussi simple que ça. Que la charge mentale, quand on laisse la maman toute seule avec les bébés, c'est pas aussi simple que ça. Elle a pas toujours la possibilité de se reposer. Hein. Donc, c'est vraiment cool. Graphiquement, alors, moi je suis pas un grand fan du dessin. Par contre, c'est un dessin support qui permet facilement de lire la BD. C'est super fluide. Les dessins sont ronds, sont cool. Il y a un côté très stylisé qui est très moderne, qui marche très bien. Les couleurs, c'est principalement des aplats, mais on est sur quelque chose qui est très reposant. Il y a beaucoup de pages qui sont simplement sur des fonds blancs avec des personnages avec des aplats de couleurs, et ça marche tout seul. Ça marche très bien. Pour une BD documentaire, c'est vraiment très cool. Donc voilà. Je vois pas quoi vous dire de plus, à part lisez cet album-là, parce que vous apprendrez forcément des choses, et puis vous casserez peut-être limite du « c'est la maman qui s'occupe des enfants et c'est le papa qui reprend le travail parce qu'il y a ça ». Il y a plein d'autres possibilités possibles. Enfin voilà quoi. Donc, Congé Pat, testé et approuvé, c'est de Tristan Champion, Stéphane Tamayon et Jack Chadwick, et c'est publié aux éditions Marabule. Je vous propose de faire aussi une autre pause musicale. Je vais faire un truc qui va peut-être vous réveiller un petit peu si vous commencez à vous endormir avec ma voix, qui peut éventuellement faire office de berceuse. Vous mettez ça dans les Walkman, enfin bref, je vous ferai des berceuses un jour. Je vais vous basculer un petit groupe que j'aime bien avec leur dernier morceau, qui est sorti vraiment tout récemment, puisqu'il est sorti il y a 3 jours, avec Elevator Operator d'Electric Callboy. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Radio G. Just wanna tell you 101.5 FM. You heard about a man, the left controller, the lever king, I told you. Hop in and let the journey begin. Shades and shiny flies, let you somewhat for all his lies. So full of ways, I just wanna get that up and down. We're moving on around, we're going up and down. We're moving on around. I wanna show you my world, where the beat goes up and down. Let me open the door. Elevator operator. Like him, I really wanna be like him. I wanna be with him. Forget about that. Heads up in the sky, and we keep getting high. Imagine down in a level that you cannot deny. We're growing light, it's shining bright. I cannot wait to get inside. Still out of sight. When we wanna go up and down, we're moving on around. We're going up and down, we're moving on around. I wanna show. Operator.
Radio G 101.5 FM.
Elevator Operator de Electric Callboy sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes de retour dans la case de Seb. Et oui, c'est toujours moi au micro, toujours moi tout seul, toujours pas de... toujours moi tout seul. Oula. Je vais vous emmener vers des trucs moins rigolos tout de suite. Alors, après, le but n'était pas de vous traumatiser non plus, hein, mais voilà. Je vais vous parler d'un autre coup de cœur que j'ai eu récent, un autre coup de cœur dont j'ai eu un petit peu de mal à définir l'origine. Alors, pas le fait que j'aime, hein, mais laissez-moi vous expliquer. Je vais vous parler de Super Beast. Super Beast, c'est de Toy, entre parenthèses, E, et de Niken. C'est publié aux éditions Vega et aussi dans la collection Alpha des éditions Vega, qui est de Dupuis. Hein. Je ne sais pas si vous suivez. De quoi ça parle, Super Beast ? Super Beast, ça parle d'une île, Kibitsujima, dans le Pacifique, plutôt proche des côtes japonaises, qui va soudain voir apparaître une brume et sortir de ces brumes, de cette brume, pardon, des monstres, des créatures gigantesques, qui vont détruire beaucoup de choses. Dans la panique, l'île va être quasiment évacuée. Je dis quasiment parce que certains civils n'auront pas le temps d'évacuer et vont rester encore sur place. L'île va devenir une zone de danger et y entrer ou sortir va devenir très compliqué, ce qui va isoler ses habitants. Pendant ce temps-là, un groupe paramilitaire va se constituer pour devenir une force de frappe et de gestion de cette île. Et par conséquent, comme ils gèrent l'île, on va les appeler la mairie. Cette mairie va avoir des technologies un peu particulières. Elle va tenter, avec ces technologies, de permettre aux gens qui sont encore sur place d'avoir toujours accès à l'eau courante, à l'électricité et de ne pas trop souffrir de ces créatures gigantesques. Des créatures que l'on nomme les chimères. C-H-Y-M-E-R. Alors pourquoi je dis que c'est un petit peu particulier de définir Super Beast ? Ben pour une raison assez simple. Je vous assure, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé vraiment d'informations concernant le point d'origine. Après, je parle pas japonais, je ne lis pas le japonais, donc peut-être que ces informations-là étaient dans des morceaux japonais. Pour moi, Super Beast, c'est premièrement des artbooks qui ont été créés par quelqu'un qui s'appelle Toy, entre parenthèses E, Toy I, je ne sais pas comment le prononcer, dans lequel il décrit des créatures, des kaiju, si on se réfère au folklore japonais. Mais pas que des kaiju de taille gigantesque, hein. Aussi des kaiju plus modestes, qui feront parfois penser à des yokai. Les yokai, c'est des sortes de monstres, divinités, issus également du folklore japonais. Des créatures qui sont parfois simplement des émanations de concepts ou de la nature. Globalement, certaines de ces créatures ne sont pas là pour la destruction parce qu'elles veulent détruire. Elles sont des éléments de destruction parce que leur taille est imposante. Parce que simplement le fait de se mouvoir impose, quand dans un milieu urbain qui ne leur est pas adapté, de la destruction. Et s'il y a de la destruction, ben il y a des vies qui sont en danger. Ces artbooks-là, ils sont publiés, je l'ai dit tout à l'heure, dans la collection Alpha des éditions Vega Dupuis. Pour l'instant, il y en a deux. Et pour moi, Super Beast, ça a commencé avec ces deux artbooks. Je vous ai dit, hein, j'ai cherché plus d'informations sur la genèse de ça, mais je n'ai pas trouvé, vraiment. Je vais vous décrire un petit peu les ouvrages. Ces artbooks, ils sont en format à l'italienne. Donc, ils sont plus allongés que hauts. Ils font respectivement 158 pages pour le premier et 140 pages pour le deuxième. Et on nous raconte, grâce à des dossiers, grâce à des photos, qui sont de très belles illustrations, hein, c'est pas des vraies photos au sens propre, quelles sont les créatures et quels sont les moyens que la mairie a mis en place pour pouvoir lutter contre elles. Mais aussi, quelles sont les conditions de vie sur place. Comment ces créatures, ces chimères, comme on les nomme, interagissent. Et à chaque fois, on va nous classer ces créatures en différentes tailles, calamiteux, désastreux, nuisible, top secret. Et on va nous donner des éléments qui vont nous raconter une histoire. Et moi, je trouve ça juste génial, en fait, d'avoir presque un catalogue de monstres dans lesquels on pourrait piocher. Amirolliste, ça c'est fait pour vous. Et on va pouvoir comprendre un petit peu comment l'organisation fonctionne, comment on peut lutter contre ces créatures-là. Les ouvrages sont vraiment super beaux. Moi, je ne me lasse pas de les parcourir. Et voilà. Bon, pour la petite vanne, à l'intérieur du... Comment dire ? C'est des ouvrages qui sont en couverture souple. Il y a un petit, une petite couverture souple par-dessus. Et à l'intérieur, il y a marqué « Une habilitation de sécurité de niveau 5 est nécessaire pour avoir accès à ce dossier. » Donc, je pense que j'avais l'accréditation spéciale. Et sur la couverture, en vernis sélectif, il y a marqué « Rapport numéro 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, ultra confidentiel. » Bref, c'est vraiment excellent à lire, parce que c'est très immersif. C'est sous forme de discussion, et on pourrait vraiment imaginer que ce qui s'est passé là-bas, on le découvre à travers cet ouvrage-là. On s'imprègne très facilement. Mais vous allez me dire, Seb, c'est pas une BD, c'est pas un manga, c'est pas un comics. Oui, oui, d'accord, c'est vrai. Il faut savoir que Super Beast a aussi été décliné en version manga, avec un dessin et un scénario, adapté de l'œuvre originale par Niken. Et c'est ce qui me fait penser, justement, ce fait que ce soit œuvre originale Toei I, dessin scénario Niken, que ce sont les artbooks qui ont déjà ouvert la voie. Mais j'ai pas l'info. Et qu'est-ce que ça nous raconte ? Eh bien, le manga, ça nous raconte un peu ce qui se passe sur cette île, à travers le regard d'un psychologue qui va être recruté pour aller filer un coup de main à des agents de la mairie. Alors, quand je parle des agents de la mairie, il y a plein de sections dans la mairie. Lui, il va être assigné à une section bien précise pour accompagner certains des agents. Des agents qui vont aller sur le terrain pour lutter contre les chimères. Mais quand on dit lutter, vous vous doutez bien que les forces ne sont pas égales. Hein ? Imaginez la tête d'un humain face à un monstre qui fait plusieurs étages de haut, plusieurs dizaines d'étages de haut. Pour pouvoir détruire ou annihiler une chimère, il faut viser certains points stratégiques qui concentre une substance particulière de la chimère. Je vous laisserai découvrir les modalités et les détails dans l'ouvrage. Ce point, il est identifiable grâce à certains outils et techniques. Ensuite, il suffit, je fais des guillemets avec les doigts, de les viser avec des armes bien spécifiques et hop, le problème de la chimère est réglé. Vous doutez bien que c'est pas aussi simple que ça. Pour ce travail, les agents qui sont envoyés, on va se rendre compte très vite ils ont des capacités un petit peu particulières. Et surtout, que ces agentes, puisque ce sont des femmes, ont un caractère bien trempé et très particulier lui aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un psychologue, puisqu'il va être obligé de les comprendre, de les canaliser, pour les obliger à collaborer, à suivre les ordres, et peut-être aussi pour éviter un débordement. Parce que peut-être que le remède est plus dangereux que la menace. Alors Super Beast, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool. On a des gros monstres, on a des scènes d'action, on a de la psychologie, on a tout ce qui peut faire la réussite d'un film Godzilla, condensé avec des combats qui vont aller chercher du côté des jeux de Monster Hunter pour vous donner une idée du rapport de taille et de force. Il y avait un autre jeu dont j'ai oublié le nom, où on était un pauvre personnage qui devait grimper sur des créatures pour aller les auxilier, mais j'ai perdu le nom, donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat si vous vous en rappelez. Je vous en remercierai d'avance. Il y a beaucoup d'actions, je disais. On a des personnages très hauts en couleur, qui ont besoin de plusieurs pages pour pouvoir arriver à combattre un monstre. Un monstre qui pourrait simplement les plier en quelques secondes. Et ça rend le truc vraiment très très cool. Parlons graphique. Vous imaginez bien qu'un artbook, ça prend plein de temps, c'est des illustrations superbes, en couleur. Un manga, c'est souvent en noir et blanc. Il a fallu retranscrire ces monstres-là. Il a fallu les retravailler. Le artbook, il est très dense. Donc il a fallu prendre que quelques-uns de ces monstres qui sont dans ce catalogue. Sinon, imaginez juste la complexité de l'histoire ou simplement la complexité à survivre sur place. Eh bien, cette histoire, elle nous présente des créatures qui sont gigantesques, qui sont très fortes, très violentes. On nous présente des scènes d'action qui sont super lisibles, qui sont très propres. C'est super détaillé. Le noir et blanc fonctionne très bien. On a des gros passages avec des créatures qui font peur, même sur le papier. Vous verrez la mention spéciale avec une des créatures que vous allez découvrir à la toute fin du tome 1. Juste, son design est flippant. Perso, j'aurais aimé avoir un format peut-être un peu plus grand, parce qu'on a vraiment envie d'en profiter de ces pages de créatures. Elles sont dans un gigantisme qui mérite vraiment de prendre encore plus de place. C'est aussi ça qui est intéressant dans cette mise en scène, c'est qu'on est dans un petit format, on a un cadrage qui, en utilisant la mise en page, nous fait rendre compte la démesure de ça. On va avoir des pages qui sont très serrées sur les cadrages avec les personnages de notre niveau, et puis des cases plus grandes sur les créatures gigantesques qui nous permettent de vraiment prendre l'ampleur de la catastrophe et de la menace qu'elles peuvent donner. J'ai juste un petit bémol sur cette série. C'est qu'on a quelques passages de fanservice dont on pourrait complètement se passer. Ok, d'accord, c'est des personnages féminins, les personnages principaux. Ils sont bien caractérisés, peut-être un peu archétypaux, mais il n'y avait pas besoin de fanservice. Bon, d'accord, il y a des tentacules, mais il n'y avait pas besoin de fanservice. Après, je vous rassure, on peut tout à fait lire le truc sans s'en préoccuper, sans que ce soit terriblement gênant. C'est vraiment que quelques passages. A contrario, un des points hyper intéressants, c'est qu'il y a beaucoup de mystères dans ce manga. On ne sait pas d'où viennent ces créatures, ni cette brume. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont mises en place, à la fois dans le manga et l'artbook. Je vous assure qu'ils sont vraiment complémentaires. Et même les agents qui luttent contre ces créatures, qui ont des capacités un peu particulières, je vous l'ai dit, des capacités surhumaines, on a très vite quelques explications. Mais on aura aussi encore beaucoup de questions. Et plus on avance, plus le mystère s'épaissit. Plus on a de réponses, plus on a de questions. Alors, vous l'avez bien deviné, j'imagine, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui m'a vraiment hypé, et je pense que j'aurais facilement pu passer à côté. Voilà. Est-ce qu'il faut que vous lisiez les mangas ? Ça, c'est une certitude. Mais je ne saurais que fortement vous inviter à vous procurer aussi les artbooks. Ce sont de très bons compléments à l'histoire et ça rend vraiment le truc très, 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 très intéressant à lire. Je vous inviterai même à commencer par les artbooks, à vous immerger dans l'univers et à découvrir l'histoire telle qu'on veut vous la raconter à travers les mangas. Gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Ça s'appelle Super Beast, les tomes sont, pour l'instant, on a 3 tomes qui sont publiés aux éditions Vega Dupuis. Il y a que 4 tomes au Japon et les artbooks. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a pour l'instant 2 de publiés aux éditions dans la collection Alpha des éditions Vega. Vraiment, vraiment très, très gros coup de cœur, ça. J'ai vraiment kiffé. Que dire de plus ? J'ai déjà beaucoup parlé, je peux éventuellement vous faire une petite passe sur Cosmic Detective. Allez, on va essayer de faire bref, histoire d'être sûr. Cosmic Detective, c'est un album publié aux éditions Delcourt, c'est de Jeff Lemire, Matt Kint et David Rubin. Alors, si vous êtes des habitués du comics, tous ces noms-là sont des noms qui vont vous avoir parlé. Jeff Lemire, c'est Descendants, c'est je vais y arriver, c'est Essex Country, The Nobody, Sweet Tooth, c'est des séries que vous avez peut-être entendues aussi parce qu'il y a eu pas mal d'adaptations, notamment Sweet Tooth qui est passé sur Netflix. Matt Kint, pour lui, c'est tellement de choses en fait. Que j'en perds mes mots. Il a fait Berserker avec Keanu Reeves. Il a fait Grass Kings, qui avait été nommé aux Eisner Awards. Il a fait Crimson Flowers. Il a travaillé sur Justice League of America. Il a fait du Spider-Man chez Marvel. Enfin voilà. Et là, on nous, l'histoire, c'est assez simple. En fait, il y a des choses, des tutes, je bip le nom, qui sont parmi nous depuis très longtemps. Ces choses-là sont capables de faire ont des capacités extraordinaires, ils sont soi-disant immortels. Et le un jour, une de ces créatures-là meurt. Et vous doutez bien que c'est pas anodin. Quand cette créature-là meurt, l'agence, qui depuis des années surveille ces créatures-là pour qu'il ne leur arrive rien, et surtout qu'elles ne nous fassent rien, va dépêcher un personnage qui sera nommé tout le long par nous-mêmes le détective, on n'aura jamais son nom, qui va se mettre à enquêter sur le décès de cette créature. Ce décès qui n'est pas accidentel, c'est visiblement un meurtre. Et le détective va mettre le doigt dans un engrenage qu'il n'aurait jamais voulu découvrir. Je vais pas en dire plus, il y a plein de métaphysique, il y a plein de secrets. C'est assez dingo. C'est une BD qui fait des hommages à plein de gens. C'est une BD polar, c'est une BD légèrement cyberpunk parce qu'il y a un peu de technologie. C'est une BD de science-fiction, plus science-fiction polar que cyberpunk, pardon. Et puis c'est une BD qui, je trouve, prend beaucoup à l'esthétique de David Cronenberg. Il y a un côté très organomécanique dedans qui fonctionne très très bien. À un moment, le détective doit descendre dans une morgue et pour ça, il ouvre le capot de sa voiture, qui est une vieille voiture des années 50, vous savez, assez ronde, mais tellement imposante. Et en ouvrant le capot, il découvre des espèces de méandres de chair qui lui permettent de prendre un escalier qui descend jusqu'à la morgue. Il y a une identité graphique qui est dingue. Il y a des couleurs cracra, il y a des couleurs néon, il y a de la matière, il y a des hachures, il y a des pointillures, il y a plein de trucs. C'est vraiment une BD qui va vous happer, qui va vous captiver de bout en bout. Parce que c'est vraiment quelque chose de très dense, très intense, qui va se produire. Je peux imaginer que au bout de quelques pages, certaines personnes ne rentrent pas dedans. Mais essayez d'aller au bout. Si vous êtes fan de comics, c'est vraiment une petite pépite qu'il faut absolument découvrir avec des auteurs très talentueux et une construction juste géniale. Je vous redonne les références de tous les albums. Nous avons Cosmic Detective, dont je viens de parler, publié aux éditions Delcourt par Jeff Lemire, Matt Kint et David Rubin. C'est une BD qui ne m'a pas été envoyée par l'éditeur. Nous avons parlé de Congé Pat aux éditions Maraboule, de Tristan Champion, Stéphane Tamayon et Jack Chadwick, qui m'a été envoyé par l'éditeur. Nous avons Balle au pied de Lilian et les deux pareils aux éditions Glénat, qui est une BD qui ne m'a pas été envoyée par l'éditeur. Nous avons Les carnets de cerises, tome 6, la parenthèse d'oubli de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Continuez tous les deux à nous faire des carnets de cerises, c'est vraiment trop bien. C'est aux éditions Oxymore, dans la collection Métamorphose, qui m'a été envoyée par l'éditeur. Et puis on a parlé de mon gros coup de cœur, Super Beast, publié aux éditions Vega Dupuis pour les mangas, publié dans la collection Alpha des éditions Vega Dupuis pour les artbooks. Il faut savoir que seulement une partie en fait de tout ça m'a été envoyée par l'éditeur. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que vous avez découvert de belles choses, de belles lectures. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour parcourir... Non, ça, c'est l'autre émission. On se retrouve dans 15 jours pour parler de nouvelles lectures. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Nous, d'un petit schtoumpf.
Batman. Trop vite.
votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Radio G 101.5 FM.